Maïf.
Avant, moi, je croyais que dégâts des eaux, c'était des gars qui bossaient dans l'eau. Et puis un jour, je me suis endormi pendant que mon bain coulait. Et là, j'ai appris le vrai sens des mots.
Et vous avez aussi appris que la Maïf couvre ce genre de pépins. L'assurance habitation du numéro 1 de la relation client. Maïf, assureur militant. Voir conditions sur maïf.fr. Lauréat assurance de 2004 à 2024. Enquête Bering Point Cantar, réalisée fin 2023 auprès de 4000 personnes. France Inter.
Test féminité. C'est une question quasiment philosophique là. Qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, si on n'accepte plus la différenciation sexuée dans la société, est-ce qu'on devrait l'accepter dans le sport? Je remets pas en question ni l'un ni l'autre, mais c'est une question à se poser quoi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen, une heure pour décrypter notre époque dans une ambiance de franche camaraderie virant parfois au potage, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs l'ambiance du village olympique tous les 4 ans. Village où à partir du 26 juillet prochain, vous devrez d'ailleurs adresser votre courrier, qu'il soit encourageant ou insultant, à notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui fait partie, oui, de la délégation française. En effet, si vous nous suivez en vidéo, vous avez pu constater la transformation physique de celui qu'on appelait jadis Père Dodu, et qui en l'espace de quelques mois est devenu un impressionnant bloc de muscles. Un corps taillé à la serpe à coups d'intensives séances de crossfit très régulières, puisqu'elles passaient seulement de 4 à 6 semaines, selon le programme d'entraînement des plus grands champions, un dîner du gras, une séance de crossfit, une séance de crossfit. Malgré cette rigueur militaire, Cyril aura hésité jusqu'au bout à représenter la France aux Jeux. La décision, en fait, est tombée hier, quand, lors d'un déjeuner d'équipe en terrasse, il a eu cette phrase historique que personne n'avait jamais entendue et même que personne n'aurait pu imaginer dans sa bouche. Non, pas de dessert pour moi.
C'est de votre faute.
Je suis votre coach, je vous ai bridé de cheesecake.
Évidemment, je vous ai bridé de cheesecake.
Qu'est-ce que c'est que cette phrase?
C'est ce jour-là qu'on a compris que Cyril était devenu un athlète à qui, avec sa barbe de narcotrafiquant colombien retranché dans la jungle depuis 1992, personne au CIO ne songerait à demander un test de masculinité, alors que la question des tests de féminité, eux, se pose toujours dans le sport de haut niveau. Officiellement, ils n'existent plus, je l'ai dit, depuis les JO de Sydney en 2000, mais officieusement, on les dégaine encore de temps en temps de manière détournée, quand il y a un doute. Mais un doute sur quoi? S'il est légitime de vérifier que tous les athlètes soient à armes égales, jusqu'où faut-il aller? Car, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ces tests évaluent ou ont évalué des critères biologiques qui dépassent les différences hommes-femmes. Ainsi, une femme née avec un taux de testostérone supérieur à la moyenne doit-elle être privée de compétition alors qu'il a été reconnu que Michael Phelps, le géant de la natation, a été doté par Dame Nature de pieds immenses et d'une production d'acide lactique ridiculement basse, lui donnant un avantage naturel sur ses concurrents. Personne n'a jamais songé à priver Phelps de compétition au motif qu'il était trop masculin. Alors peut-on priver de compétition des athlètes sous prétexte qu'elles ne seraient pas assez féminines? Cyril enfile ses protèges tibias. Et Zoom Zoom Zen, c'est parti toujours.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Anaïs Beauhuon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Anaïs, vous êtes socio-historienne et enseignante-chercheuse à la faculté des sciences du sport à l'université Paris-Saclay. Et vous avez publié le livre Catégorie d'âme, qui évoque justement les tests de féminité dans les compétitions sportives. Vous êtes donc la personne la mieux placée au monde pour nous parler du problème que représentent ces tests dans le sport. Et vous allez tout nous dire. Juste le temps de saluer mes précieux acolytes. Le légendaire binôme, enfin reconstitué après le week-end prolongé de Quentin à Marseille. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour, c'est les tasses Lou Cigalou.
Ouais. On entend.
On entend.
Bonjour, je suis content de vous retrouver.
Mais c'est bon.
Mais presque manqué.
Ce zeste de sincérité me met presque mal à l'aise. Manon, même si vous disiez hier à la sortie du studio à Marie, sa remplaçante, que ses micro-trottoirs étaient super, limite mieux construits que ceux de Quentin, je sais que vous êtes ravis de retrouver le reporter de terrain original de notre émission. Vous avez d'ailleurs meilleure mine aujourd'hui, hein, ouais. Manon. Après, est-ce que c'est parce que Quentin est de retour ou parce que votre foie a eu le temps d'assimiler tous les vodka jet que vous êtes enfilé ce week-end? À vous de nous dire.
Non, mais si, ça va
un
mieux.
Un peu des deux.
Oui, bah là, j'ai ma bouteille d'eau à côté, quoi.
Oui, ah oui, c'est vrai que c'est rare de vous voir avec de l'eau. Sinon, maintenant, au programme de votre veille sanitaire.
Instagram serait en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bientôt sortir. Alors, je mets cette phrase au conditionnel car ce n'est pas la première fois que le réseau tease une nouveauté, mais sans jamais la sortir. Une drôle de stratégie dont je vous parle dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Anaïs, coïncidence malheureuse ou responsabilité avérée, la polémique enfle dans la cité phocéenne. Dimanche, Quentin se baladait dans les rues de Marseille. Le lendemain, Jean-Claude Godin était retrouvé mort. Des témoins affirment avoir vu un jeune homme au gabarit de jockey, équipé d'un micro France Inter, insister lourdement auprès d'un vieux monsieur pour qu'il participe à un micro-trottoir et déclarant à ceux qui tentaient de s'interposer, soulignant l'abus de faiblesse.
Ouais, chacun ses techniques et ses petits secrets. Bon, mon talent, c'est d'arrêter les gens.
Oui, comme le sinistre personnage d'Adolfo Ramirez dans Papy fait de la résistance. Ouais, alors Quentin, il est temps de jouer franc jeu. Jean-Claude Godin, c'est vous ?
Rien à voir, j'y suis allé pour tourner une vidéo pour les Jeux Olympiques, pour la voile. C'est au pôle voile France.
C'est la version officielle. En tout cas, on va bien voir de toute façon si on entend Godin dans votre micro-trottoir.
Bon, soyez rassurés, j'ai pas eu le temps de l'avoir avant. J'ai donc fait réagir les passants à cette notion de test de féminité. Eh bien, personne n'avait connaissance de l'existence même de ce test. L'occasion d'en discuter aussi de sport pour un micro-trottoir complètement à la rue.
Hommes, femmes, la frontière est parfois plus subtile qu'on l'imagine. Et on jouera avec celles et ceux et ciel aussi qui, au cours de l'histoire, se sont joués des genres. Le Zoom Zoom Test sera aux alentours de 16h30. En fin d'émission, Rosa Burstein nous rejoint. Mais d'abord, je disais qu'ils étaient normalement interdits. Pour autant, Anaïs Bouillon, ces tests de féminité dont on va parler dans l'émission, ça reste un sujet d'inquiétude parmi les sportifs ?
Alors, je vais vous faire une réponse en vous disant oui et non. Non, parce que, comme Quentin a pu le constater, visiblement, c'est très peu connu. Cette histoire est très peu
même
connue.
Même au sein des sportifs ?
Absolument, ouais.
C'est fou.
Oui, et c'est resté très tabou, très méconnu, parce que ça pose des problèmes. Et je dirais oui, parce que ça soulève des questions d'éthique, d'équité, d'avantages physiques. Et vous avez beaucoup parlé du test de féminité, mais entre-temps, après avoir sorti mon livre, j'ai retrouvé dans les archives de la commission médicale du Comité international olympique, qu'au tout départ, il parlait pas de test de féminité, mais de contrôle de sexe. Et on va voir au cours de l'émission que ça a beaucoup de sens, la désignation des termes. C'est-à-dire qu'il cherchait pas tant la féminité ni le genre, mais bien le sexe.
On va évidemment y revenir tout au long de cette émission. Anaïs, des athlètes de haut niveau, vous en avez déjà vu, mais d'aussi près, peut-être pas. Peut-être pas. Il est le Usain Bolt de la viande maturée, de même que Michael Phelps a mis à profit les formidables panards que lui a offert Dame Nature. Cyril a mis à profit le formidable estomac, l'un des rares modèles du marché à double fond que lui a offert la nature. Bonjour Cyril
pratique,
la carrière.
Très,
mais ça
pratique.
C'est sûr, j'en doute pas
bonjour
une seconde.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Cyril, dites-nous, vous le bigorexique de la bande, je vous renvoie à l'excellent numéro de Zoom Zoom Zen sur la bigorexie, les tests c'est de féminité... Les tests de féminité dans le sport, d'où ça sort ?
Ça va bientôt faire 60 ans que le monde du sport s'est mis à faire des tests de féminité. Au début des années 60, plusieurs fédérations internationales accusent publiquement certains pays de ne pas gagner à la régulière, de faire passer des athlètes hommes pour des femmes et donc de bénéficier de qualités physiques supérieures pour battre leurs concurrentes. Le sujet devient si sérieux qu'en 66, le comité de la Fédération internationale d'athlétisme instaure un test de féminité pour contrôler le sexe des concurrentes. Un test anatomique et gynécologique. Je vous explique en quoi consiste ce test. Je le tire de votre livre, Anaïs Bouillon. On mesure la force en demandant à l'athlète de presser une poire et on mesure le souffle à l'aide d'un spiromètre. Deux ans après, la Fédération internationale, le comité olympique lui emboîte le pas et instaure à son tour ses tests de féminité. À ces tests anatomiques et gynécologiques vient rapidement s'ajouter un test génétique afin de vérifier que les athlètes femmes ont bien deux chromosomes X.
Mais ça Cyril, c'est quand la médecine et la science se sont emparés du sujet, mais en fait, il y avait déjà des tests avant les années 60.
Exactement. En fait, dès les années 30, il y avait déjà des tests, mais des tests visuels. En fait, des jurys étaient chargés de juger si physiquement une athlète était bien une femme. Dès qu'une d'elles leur semblait suspecte, c'est-à-dire trop musclée, ou qu'elle manquait de poitrine, elle devait se présenter nue pour prouver qu'elle était bien une femme. Une pratique qui s'est arrêtée avec l'arrivée des tests dont je vous parlais précédemment. Et d'ailleurs, ces tests ont été officiellement bannis depuis les Jeux de Sydney en 2000, mais sans qu'on les appelle encore comme ça, ils existent encore. Alors, est-ce que les tests de féminité sont encore acceptables ? Et d'ailleurs, sont-ils même fiables ? Comment ces tests nous permettent de nous interroger aussi sur la notion de genre, de qui est une femme et de qui est un homme ? Comment appréhender l'intersexuation dans le monde du sport ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci beaucoup Cyril. Anaïs Bouillon, puisque Cyril pose la question et que cette question va être au cœur de notre émission, expliquez-nous déjà ce qu'on entend par intersexuation.
Oui, alors je vais prendre une définition et je vais l'emprunter au collectif intersexe et alliés. Ce sont des personnes qui sont nées avec des caractères sexuels primaires et ou secondaires considérés comme ne correspondant pas aux définitions sociales et médicales binaires type des corps masculins ou féminins. Je vais vous prendre des exemples plus concrets de ce qui s'est passé dans le monde du sport. À partir de 1968, elle devait passer donc ces fameux tests et elle recevait ce qu'ils appellent un passeport ou ce qu'elles appelaient un passeport de féminité ou un certificat de féminité. Certaines femmes se sont révélées avec le test de corpuscule de Barre, donc en 68, qui visait à rechercher le deuxième chromosome X pour définir ce que doit être une vraie femme autorisée à concourir, se sont révélées XXY ou alors XY, et elles pouvaient présenter, et là ça complexifie la définition du sexe biologique, elles pouvaient présenter ce qui s'appelle une insensibilité aux androgènes, qui pouvait être partielle ou totale.
Ça veut dire quoi, une insensibilité
aux androgènes ? Une insensibilité aux androgènes, c'est que par exemple ces femmes qui sont XY, elles vont avoir un taux de testostérone qui va être jugé élevé, mais il va y avoir une mutation dans les récepteurs des cellules qui empêche l'organisme d'y être sensible. Donc ça veut dire qu'elles produisent de la testostérone.
Mais l'effet s'annule, ça ne leur apporte pas un avantage.
Absolument.
Mais du coup, elles l'ont découvert à ce moment-là.
À ce moment-là. Et ça, c'est très important de le dire. Les personnes qu'on peut désigner comme intersexes dans le monde du sport, toutes les athlètes avec qui j'ai travaillé et que j'ai rencontré, ne se disent pas intersexes, ne se visent pas intersexes. Caster Semenya est la première à le dire. Mmh. Si je n'avais pas fait de sport de haut niveau et que je n'avais pas subi ces tests, jamais j'aurais douté du fait d'être, entre guillemets, une vraie femme autorisée à concourir.
À l'heure d'une première pause musicale, oh, je reconnais bien là la malice du La Carrière pour qui la programmation musicale de cette émission est une autre manière d'exprimer son fiel comique. Voici Christine and the Queens. Christine sur Inter.
Tu commences le menton au bourrin, rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Le ciel.
Zoom Zen sur France Inter.
Vous êtes une femme, alors prouvez-le. Zoom aujourd'hui sur cette injonction faite aux sportives frontalement hier, plus insidieusement aujourd'hui, à quelques semaines des JO de Paris. On s'interroge avec vous, Anaïs Boyon, autrice justement d'un livre intitulé « Catégorie d'âme, le test de féminité dans les compétitions sportives ». Première grande question liminaire, peut-être certaines de vos auditeuristes se posent, est-ce que le sexe biologique a réellement une influence sur les performances sportives des athlètes ? Ça, on peut dire que oui quand même.
Alors encore faut-il définir le sexe biologique, comme on vient de le voir avec l'intersexuation. C'est-à-dire que la difficulté auquel est confronté le monde du sport, c'est définir ce que doit être une vraie femme autorisée à concourir. Et à travers les tests, comme ça a été dit, au début on a regardé le sexe apparent et le sexe morphologique avec les tests de force, etc. Et on s'est rendu compte que par exemple une femme pouvait être musculeuses, robustes, endurantes, plus que certains hommes d'ailleurs, de par l'activité physique qu'elles vont pratiquer. Ensuite, on a regardé les sexes chromosomiques, et aujourd'hui, on regarde le sexe hormonal. Donc, ça peut avoir une incidence, mais par exemple, pour le sexe hormonal, on est en présence de variations quantitatives. Parfois, certaines femmes produisent plus de testostérone que certains hommes. Des scientifiques ont montré qu'il pouvait y avoir plus de différences de production de testostérone entre deux hommes qu'entre un homme et une femme. Donc c'est une question très complexe, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte pour y répondre les multiples dimensions du sexe biologique.
Mais quand vous dites qu'on maintenant on se base sur les hormones, on se base, pourquoi on se base? C'est interdit ces tests, non? Depuis 2000 et Sydney, je crois que c'est
Alors,
le sport, c'est pas si interdit que ça. C'est un peu interdit.
Alors c'est maintenant les protocoles ont évolué. Ça a été obligatoire au JO jusqu'à Sydney en 2000. Mm-hmm. Depuis 2000, si on voit certaines femmes se rapprocher trop dangereusement des morphotypes masculins
qui
et des records,
c'est les fédérations,
notamment, je vais la cibler, la commission médicale de la Fédération internationale.
Très bien, on les embrasse.
Voilà, et ça a été le cas de Caster Semenya en 2009.
Il l'a trouvée physiquement un peu masculine.
Absolument. Donc en fait, on lui a reproché...
Rappelons qui est cette athlète.
Alors, Caster Semenya, c'est une jeune athlète sud-africaine qui remporte les championnats du monde de Berlin en 2009, avec une aisance et une facilité impressionnantes. Mmh. C'est une grande championne, si vous voulez, c'est la Bolt du 21e siècle, pour moi, sur 800 mètres. Le problème qu'a Caster Semenya, c'est qu'elle remporte cette course en 1 minute 55 secondes et 45 centièmes. On y reviendra, qui a un temps exceptionnel, mais...
C'est joli.
Bon, il faut raison garder. Et on lui reproche de pas avoir de seins, de pas avoir de poitrine, d'être trop poilu, parce que Caster Semenya, c'est quelqu'un qui performe son genre, elle voit pas l'intérêt de se mettre du maquillage, avoir les ongles peints pour pouvoir faire un 800 mètres, parce que ça va couler, etc. Elle s'épile pas, elle s'en fout. Caster Semenya, elle performe son genre, véritablement. Et on lui reproche aussi même d'avoir une sorte de cycliste long, comme les hommes peuvent en porter, au lieu d'une culotte, comme la plupart des athlètes en portent.
Qui, les médias aussi, jouent ce jeu-là?
Alors, les médias... tout le monde, le grand public, j'ai même lu sur les réseaux sociaux que j'affectionne particulièrement, c'est ironique, que ça ne pouvait pas être une vraie femme parce que dans Caster, il y a castré. Donc ça allait extrêmement loin.
On est parti sur un grand délai. Alors qu'est-ce qui s'est passé historiquement pour cet athlète? Il y a eu des tests qui ont été menés. Donc,
absolument. Donc, alors là, on est sur des soupçons visuels et de performance. Je voudrais quand même revenir sur la performance parce qu'on ne le dit pas assez. Beaucoup de gens commentent mais ne connaissent rien au sport et ça m'agace parce que je suis une ancienne coureuse de 800 mètres ratée. Et 1 minute 55 secondes 45 centièmes, elle ne remet pas du tout en cause la bicatégorisation sexuée sportive. C'est-à-dire qu'avec un tel temps, elle peut même pas être qualifiée au championnat de France masculin. Et on peut pas dire qu'en France, quand même, on a Benjamin Robert, etc. Bref, mais tout ça pour dire que on l'a invitée à aller concourir chez les hommes si elle n'acceptait pas de réguler ses taux hormonaux. Donc, elle a fait toute une batterie de contrôles de sexe, donc des contrôles chromosomiques, des bilans sanguins, etc. Et il s'est avéré que les instances dirigeantes médicales sportives ont dit qu'elle présentait ce qui s'appelle de l'hyperandrogénisme féminin. Donc, elle présenterait naturellement, c'est vraiment très important de le signifier, elle ne triche pas, elle n'est pas dopée, plus de testostérone que la moyenne des femmes.
Mais ça n'y peut rien.
Non, et ça relève d'une exceptionnalité et d'une caractéristique hors norme comme une grande taille.
Oui, c'est ça, comme Victor Wembanyama, il est trop grand alors que son fils lui dit
qu'il
peut pas
jouer. Mais c'est un avantage concret d'avoir plus de testostérone, c'est prouvé scientifiquement.
C'est une excellente question. Non, il n'y a aucun consensus scientifique international. Pourquoi? Parce que si vous voulez prouver, et là on parle vraiment pas de dopage, vraiment j'insiste, on parle de production endogène et naturelle. Si vous voulez parvenir à prouver que seule la testostérone permet à Caster Semenya de faire une 1 minute 55,
il y a trop d'éléments.
Exactement, il y a trop d'éléments. Il faudrait isoler les hormones de croissance, la production de cortisol, sa taille, son élasticité. Je pourrais multiplier à l'infini, on pourrait y être demain. Et aussi, ce qui caractérise la performance, et ça vraiment, ça me tient à cœur de le dire, pour envisager le sport de haut niveau et ses performances exceptionnelles, il faut prendre en compte énormément de composantes. Les déterminants sociologiques, biographiques, environnementaux, économiques, politiques, culturels, et je pourrais multiplier à l'infini, et même psychologiques. Et on pourrait aller loin en disant un Kenyan ou un Jamaïcain aujourd'hui pourrait porter plainte contre les Norvégiens parce qu'il veut faire du biathlon. Voilà, je provoque en disant
on pourrait pousser le
raisonnement. Non, il y a pas, ils n'y parviennent pas. D'ailleurs, dans l'histoire du sport, dans l'histoire de ces tests, on voit qu'ils sont passés en 2011 pour la première fois à dynamomol par litre de sang autorisé de testostérone produite, à 5 nanomoles en 2018 et aujourd'hui c'est 2,5 avant 24 mois avant la compétition. Je rencontre certaines sportives qui me disent un jour on n'aura plus du tout le droit de produire de testostérone.
Alors on dit que ces tests ça n'existe que dans la catégorie femme, c'est faux. Il y a quelques semaines, Quentin Louis, notre reporter de terrain, qui fait aussi des reportages pour le service des sports, avait une forme de test de masculinité quand un champion de vélo sur piste lui a fait enfiler un lycra moulant. Vidéo qui prouve d'ailleurs les limites des tests de masculinité puisque si certains ont estimé qu'il était bien un homme, d'autres comme Manon ont laissé entendre qu'il y avait quand même un petit doute.
Oh,
Quentin,
c'est classe.
Vous oubliez cet affront à votre virilité, on s'en souvient, c'était Manon, c'était pas moi. C'est très loin. C'est très loin de Manon.
Surtout.
Très loin de Manon à Marseille que vous êtes allé promener votre
lycra. Oui,
micro.
Car je faisais encore une vidéo pour France Inter sur la voile.
Encore une.
Et vous verrez, il y a encore un peu de lycra. J'en ai profité pour venir discuter avec vous de ces tests de féminité. On commence avec ces deux copines qui attendent leur bus, le 49. Elles connaissent l'émission. Est-ce qu'elles ont le temps de me répondre?
C'est quoi? Il est juste derrière.
Ah non, j'étais contente de participer à Zoom Zoom Zoom.
Tu veux qu'on... Bon d'accord.
Ouais, vas-y, allez.
On attend.
Allez, bonjour.
Bonjour.
Je vous demande vos prénoms.
Agathe.
Anita.
Copine dans la vie.
Copine dans la vie.
Faites quoi, vous?
Avocate.
Copine dans le boulot, copine dans la vie, donc avocate.
Okay. Elle découvre le thème de l'épisode du jour de Zoom Zoom Zen.
Test de féminité. C'est un test pratiqué lors des compétitions sportives pour déterminer si une sportive professionnelle ne serait pas intersexuée ou de sexe masculin. Ok.
Bon, bah c'est très binaire, quoi. Enfin, si un homme était pas assez bon, par exemple, dans un sport, on pourrait aussi lui faire passer un test pour voir s'il a pas trop d'œstrogènes, quoi. Ça renvoie un peu. Non, mais en fait, c'est un peu l'inversement de considérer que parce que t'es une femme, t'es nécessairement moins bonne.
Moins performante.
Ouais, en raison de critères hormonaux, quoi. Ou de critères, ouais.
Ça vous choque un peu, quand même.
C'est dérangeant. Ouais, c'est dérangeant. Dit comme ça, c'est dérangeant. Après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus comprendre, je sais pas, le truc là, mais comme ça, c'est dérangeant en tout cas.
Mais alors, si les frontières se réduisent entre les hommes et les femmes, est-ce qu'il faudrait plus de sports mixtes?
Je sais pas. À ce jour, c'est vrai que ça me paraît très compliqué de voir des sports avec vraiment une mixité totale, sans aucune distinction de morphologie qui peut exister. De fait entre les hommes et les femmes.
Après, je trouve que moi j'ai fait beaucoup de boxe et du coup le boxe c'est sur la base du poids aussi beaucoup. C'est pas possible. Je veux dire, on le fait pas en compétition, mais en entraînement. Et tu peux complètement te battre contre un homme et gagner le combat quoi. Tu vois, à poids égal quoi. Donc en fait.
Ça vous arrivez?
Ah bah oui. Non mais moi je sais ce que je préférais, défoncer les mecs.
Sur la route pour me rendre au pôle de la Fédération de voile à Marseille, je rencontre Foucault sur le Vieux-Port. Il marche les mains dans les poches.
Test féminité. Je sais pas, c'est la part de féminité qu'il y a en chaque personne.
On passerait tous un test pour savoir...
Si on est un peu femme.
Ouais. Bon, Foucault, il est à côté. Je lui explique le taux de testostérone, l'intersexualité dans le sport, quelle catégorie, quelle équité...
Non, mais c'est une question quasiment philosophique, là. Qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, si on n'accepte plus la différenciation sexuée dans la société, est-ce qu'on devrait l'accepter dans le sport? Est-ce qu'il devrait y avoir des compétitions pour les hommes et des compétitions pour les femmes? Je remets pas en question ni l'un ni l'autre, mais c'est une question à se poser, quoi.
Et oui, puisque le sport est souvent considéré comme un reflet de la société, comment traiter cette question au centre de beaucoup de réflexions de notre époque? Je lui raconte le combat actuel de Caster Semenya, l'athlète sud-africaine privée de compétition en raison d'un taux de testostérone particulièrement élevé. Elle est devenue la porte-parole des athlètes hyper-androgènes. On en a parlé un peu plus tôt dans cette émission.
Parce que du coup, ce que je comprends, c'est que c'est les critères physiques, hormonales. Ouais. C'est sur quels critères?
Hormonales.
Voilà, c'est un cas ultra particulier. Est-ce qu'on doit faire une règle d'un cas particulier? Je sais pas.
Et comment ne pas discriminer ou déshumaniser les athlètes de cette exception? Tout le débat est ici. J'arrive à la base nautique du Roucas Blanc, dans le 8e arrondissement de Marseille. Les Ilka, ces petits voiliers de compétition, sont posés sur des remorques, prêts à prendre la mer. Je fais connaissance.
Bonjour, moi c'est Eva, j'ai 18 ans et je suis athlète sportive de haut niveau.
Dans sa combinaison intégrale, Eva prend connaissance de notre sujet du jour qu'elle ne connaît pas.
Donc ça doit être en lien, pas au dopage, mais des filles qui sont plus masculins que d'autres filles.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes athlète, vous qui êtes sportive?
Ben, c'est sûr que c'est pas la même... On n'est pas tous au même niveau. Si des filles prennent plus de testostérone que d'autres...
Mais elles en produisent, elles en prennent pas.
Oui, on en produit, mais du coup ça crée une inégalité entre les concurrents.
Donc pour vous, c'est normal qu'on ait des tests de féminité?
Moi, je pense que oui, c'est normal.
L'équité, avant tout, comment ne pas se mettre à la place d'une compétitrice comme Eva? D'après elle, quels sont les avantages à un taux élevé de testostérone?
Bah, plus de force, plus d'habileté sur le bateau pour ma part. plus de résistance.
Imaginons demain, vous remportez une compétition, on vous fait un test de féminité, où on découvre que vous avez un taux de testostérone qui est un peu supérieur à la norme, et qu'on vous retire votre victoire.
Bah, c'est sûr, je le prendrai mal, mais s'il faut faire des tests, faut les faire.
D'accord, mais si on vous retire votre victoire, alors que il y a rien sur le papier qui dit que...
Bah oui, ça me ferait de la peine et je serais énervée, mais je pense qu'il faut quand même avoir une part d'égalité dans ce niveau-là, quoi.
Passionnant sujet. Comment mêler inclusion, mixité, équité, compétitivité et reflet de la société? Comment faire d'une exception une réflexion? Comment conserver la beauté du geste avec ou sans test?
Les tests de féminité dans le sport, on en parle cet après-midi avec vous, Anaïs Beauhuon, enseignante-chercheuse, je rappelle, à la Faculté des sciences du sport de l'Université Paris-Saclay. Que pensez-vous de la réaction de cette athlète Eva qui nous dit, finalement, à ce niveau de compétition, on ne laisse rien au hasard et surtout pas ce qui pourrait avantager une concurrente, donc OK pour ces tests. Ça vous choque?
Non, ça me choque pas. Je trouve le micro-trottoir super, qui renvoie à énormément de problématiques, notamment celle qui revient, la question de l'égalité. En fait, si on s'intéresse au sport de haut niveau et qu'on le pratique, ou qu'on est en plein dedans, enfin, je trouve pas le mot, on maintient les sportifs de haut niveau, mais aussi les sportifs de haut niveau, dans le vœu illusoire de l'égalité et de l'équité. On nous fait croire qu'on est toutes égales, parce que là, il s'agit de la catégorie femmes, dans les starting blocks. Et en fait, là, c'est intéressant ce que dit la passante, c'est qu'elle va parler du taux de testostérone, mais on aurait pu lui rétorquer ce dont on parlait tout à l'heure, la taille. C'est-à-dire que ça peut être un avantage en saut en hauteur, en natation ou en volée. Sauf que ce qu'il aurait fallu lui dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait 2m20 qu'on va être champion du monde de volée ou champion du olympique de saut en hauteur, en fait. Et donc, c'est marrant de voir à quel point, uniquement d'ailleurs, dans la catégorie dames, elles ont intériorisé les sportives de haut niveau, incorporé le fait qu'elles seraient toutes à égalité dans les starting blocks. Je prends souvent, et ça va faire marrer toutes les personnes qui me connaissent et qui m'écoutent, parce qu'elles en ont marre de cet exemple, mais je pense qu'il est hyper important, le fait que une athlète ratée et ça a du sens par rapport à la production de mon savoir. Pourquoi? Parce que moi, je rêvais pas du tout d'être professeur des universités. Je rêvais d'être au JO en 2024, aux 800 mètres. Très vite, j'ai pris conscience qu'il y avait certaines filles, jeunes filles, mais j'ai pratiqué pendant 18 ans et j'ai échoué, qu'il y avait certaines filles qui étaient beaucoup plus fortes que moi et qui parvenaient avec moins d'entraînement à m'exploser sur le 800 mètres. Et puis, il faut faire attention sur cette question d'avantage, parce que je prends souvent cet exemple aussi pour calmer et dépasser le débat. Si vous prenez tous les records sur 100, 200, voire 400 en athlétisme et vous regardez la couleur de peau de tous ces records depuis plus de 20 ou 30 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'en fonction d'une couleur de peau, on bénéficierait d'un avantage physique. Or, le mythe de l'avantage physique du sportif africain a été déconstruit, invalidé par les travaux de Manuel Choté ou Benoît Gaudin ou plein d'autres depuis très très longtemps. Donc, faut faire attention. Faut prendre avec précaution.
Le sport qui doit aussi être le reflet de la société, est-ce qu'il va le rester longtemps, selon vous?
Alors moi, alors c'est très intéressant parce que moi j'ai tendance à dire que le sport n'est plus que le reflet ou le miroir de la société. Le sport parfois est en avance sur la société. Et la question de l'intersexuation et des contrôles de sexe, pour moi, ont mis en lumière des phénomènes et des choses dont on ne parlait pas du tout. L'intersexuation, moi je trouve que le sport a permis de montrer les multiples dimensions du sexe biologique. Or, avant ces contrôles de féminité, et même, ça fait depuis 2004 que je travaille dessus, c'est l'affaire Caster-Semenya, qui m'a fait prendre conscience que les médias en France ou ailleurs ont commencé à parler d'intersexuation et à se rendre compte qu'il était extrêmement difficile de définir ce qu'est une vraie femme tout court ou même autorisée à concourir.
On continue de zoomer sur l'épineuse question des tests de féminité dans le sport. Les JO arrivent et on va se demander notamment, au-delà de ces tests, si les avantages biologiques innés sont considérés différemment selon qu'on est un homme ou une femme. Si les tests de féminité sont interdits, le zoom zoom test, lui, quoique tout aussi polémique, est pour l'instant encore légal. J'en profiterai allègrement tant que la CPI ne se sera pas prononcée dessus. Un quiz qui arrive juste après Johnny Cash. Oh, well, alright.
I met her at the laundromat, she was washing extra hot. I said, don't you need a little help with that big load you got? She said no, but did a double take, and then she smiled and said, I might. As I rolled up my sleeves, I said to myself, well, all right, well, all right. I put it on automatic, and she sat down on the floor. She said, just keep it on medium hot. I said, I've done this before. Then I opened up the dryer and I set it on soft and light.
She said, be gentle with my silk and lace. And I said, well, all right. Well, all right. Her clothes were in the basket, folded down so nice and warm. She headed for the door and I said, I will take you home. She said, I just live up the street. I said, it's a dangerous night. Take my arm and I'll carry the basket. And she said, well, all right. Well, all right. The world's half full of women and the world's half full of men. And sometimes one or the other opens up to let one in. But the one I met at the laundromat that dangerous, beautiful night said, yes, I do, and yes, I will. And I said, well, all right. Well, all right.
France Inter. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
C'est l'heure du quiz dans Zoom Zoom Zen. Et alors qu'on zoome aujourd'hui sur la problématique des tests de féminité dans le sport, Cyril m'avait dit, te foule pas, t'as qu'à faire un quiz femme ou pas femme. Souhaitant vous retrouver pour une saison 3 en septembre, j'ai dit non, évidemment, on va faire autre chose. Jouons au Zoom Zoom Test. On va plutôt jouer aujourd'hui à un jeu moins casse-gueule pour moi et un peu plus pour Manon et Quentin, le fameux jeu, véritable hantise pour eux, du qui a lu le livre de notre invité et qui, au contraire, a préféré occuper son week-end à s'envoyer des vodka jets dans des bars à chaud du 10e arrondissement en chantant...
Manon,
on va appeler ça qui a eu le livre déjà, qui a reçu le
On
livre.
L'a tous eu en PDF.
On l'a en mail. Hein.
Manon, Quentin, afin de ne pas trop abîmer votre réputation journalistique et votre valeur marchande dans cette période ô combien dangereuse du mercato média, je vous propose tout d'abord une question simplissime dont la réponse est donnée dès le premier chapitre. Bien avant tous ces débats sur les tests de féminité, la question avait été tranchée par l'immense Pierre de Coubertin, initiateur des premiers Jeux Olympiques modernes en 1896 à Athènes, où les athlètes femmes étaient les bienvenues puisque Coubertin disait « le héros olympique est aussi une héroïne », ou les athlètes femmes n'étaient pas les bienvenues puisque Coubertin disait « je suis pour l'égalité homme-femme, par contre qu'elles n'en fassent pas trop non plus », ou les athlètes femmes n'étaient pas autorisées puisque Coubertin disait « le véritable héros olympique est l'adulte mâle ».
C'est...
Ouais, mais il avait dit un truc,
je me suis dépêché.
Pas de jeu femelle ou un truc comme ça.
Oui, mais c'est dommage parce que c'était pas vraiment, ça n'est pas partie des options.
Ah, mais si, c'est ça, bah, vérifiez.
Vous avez pas eu le PDF. Bonne réponse de Manon Mariani.
Il l'a vu dans l'oreillette.
Alors, il y avait un piège. La B, c'était Michel Sardou.
Les femmes ont raison de se défendre, ont raison de réclamer le même salaire que les hommes. Par contre, qu'elles en fassent pas trop.
Ouais, pas trop non plus. C'était en 2024. Coubertin, lui, c'était en 1896 et ça donnait. Une Olympiade femelle serait impensable, impraticable, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Tout ça à la fois. Merci, Pierrot. Et pourtant, indécrottable friponne, les femmes s'entêtent à faire du sport, surtout qu'à la fin du 19e, elles découvrent la bicyclette. C'est bon pour leur santé, c'est bon surtout pour leur liberté, car elles peuvent aller et venir facilement, et ça déplaît fortement à certains hommes qui voient d'un mauvais œil cette émancipation. D'après vous, Manon, Quentin, que vont-ils inventer, les hommes, pour expliquer que le vélo c'est mauvais pour les femmes? Que la Bible interdit à une femme de se déplacer à une vitesse supérieure à 5 km/h? Qu'à force de faire de la bicyclette, les femmes vont devenir stériles? Ou que sur la selle, les femmes vont avoir des orgasmes et qu'elles vont finir par préférer leur vélo à leur mari?
B.
B et C.
J'ai le droit, mais j'ai pas le droit.
Ah, si, si, bah, allez,
dis-le,
c'est rien, pas avantageux.
En vrai, j'avais mis juste la réponse C, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est aussi, il y a eu aussi ce truc de la réponse B, effectivement, de la stérilité. J'avais mis la réponse C. Bienvenue, Manon, en 1897. Une époque où les gens sont pas encore prêts à la veille sanitaire. Et où les médecins tentent de dissuader les femmes d'utiliser ce diabolique moyen de locomotion qu'était le vélo. Dans son livre, Anaïs Voyon, qui a eu l'amabilité de changer le nom, cite, évidemment, Cyril Lacarrière, qu'elle appelle le docteur Gustave Martin. Un grand nombre de femmes que nous avons interrogées au sujet des sensations voluptueuses ressenties à bicyclette nous ont répondu affirmativement. Il est des cas où cette sorte de masturbation sportive les excite à tel point qu'elles augmentent progressivement leur vitesse, filent souvent avec une grande rapidité dans les descentes sans apercevoir les obstacles. Oh, pauvre sotte, elle voyait même pas les obstacles. Mais attention, les mentalités heureusement évoluent. Nous sommes en 1918, une année où en France les femmes accèdent au football. Les premières rencontres féminines du ballon rond ont lieu au mois d'avril. Ma question est, plus d'un siècle plus tard, qui en France a toujours un problème avec le foot féminin? Michel Sardou, toujours là? Alain Finkielkraut ou Gérard Larcher?
Les trois.
Les trois.
N'allons pas trop loin.
Non, bébé.
Bébé, effectivement. Bétour était la bonne réponse. Le plus philosophe des trois, bien sûr. Alain Finkielkraut, bonne réponse.
Arrêtez l'égalité, l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir
mais
des femmes. Mais après, vous l'avez demandé de regarder un match de boxe entre femmes et
mais
puis
alors,
un match de rugby. Et ben moi, j'ai pas envie, c'est tout.
Et non, il a pas envie, c'est tout, Alain. Enfin, si l'hypocrisie et le mensonge étaient des sports olympiques, nul doute que là encore, l'homme battrait la femme à plate couture. Nous sommes en 1928 aux Jeux Olympiques d'Amsterdam et l'on assiste aux premières épreuves officielles d'athlétisme féminin. L'épreuve du 800 mètres, notamment, distance jugée bien trop longue pour une femme à l'époque, va être marquée par une performance remarquable. Mais de qui ? De l'allemande Lina Radke qui va battre le record du monde ?
Ça tombe bien, on était née en plus.
Ou du commentateur de la course qui va raconter n'importe quoi ?
A.
B.
Je vous propose une autre réponse.
Les deux.
C'est allé très vite pour Quentin. Oui, les deux.
Très vite.
Alors ce jour-là, le record du monde est bien battu. Les 9 athlètes franchissent la ligne d'arrivée, ce qui n'empêche pas jeune Tunis, sorte de Thierry Roland Réac de l'époque. La tautologie évolue. Quoi, Thierry Roland? Tu connais pas Thierry Roland?
Non mais si, mais vous avez dit Thierry. Moi je préfère qu'on dise Thierry. Bon bref, c'est un débat, on s'en fiche.
Ah d'accord, vous dites Thierry.
Voilà.
Alors, il a déclaré: sous nos yeux, sur la piste cendrée, se trouvaient 11 pauvres femmes. 5 ont abandonné avant la fin de la course et 5 se sont effondrées sur la ligne d'arrivée. Alors, personne en fait donc s'est effondré. Pourtant, il faudra attendre 32 ans pour que les femmes soient réautorisées à courir une distance supérieure à 200 mètres lors des JO. C'est bien ça, Anaïs? J'ai trouvé cette anecdote sidérante. Victoire de personne, me signale-t-on, car vous avez été très mauvais tous les deux.
C'est une plaisanterie.
Par défi, en régie, j'adore. On m'a dit, tu donnes la victoire à qui tu veux, ils sont nuls. Et voilà, donc je ne donnerai pas de victoire aujourd'hui. Anaïs Bouillon. Et donnant personne n'a lu le livre, ce qui est un scandale.
C'est honteux.
Ce qui est un scandale.
Que j'ai gagné aujourd'hui.
J'adore.
Anaïs,
j'adore.
Rappelle votre livre.
Moi, je prends la victoire.
Mais évidemment, en même temps, vous avez écrit le livre. Normalement, vous le connaissez. Catégorie d'âme, les tests de féminité dans les compétitions sportives, une histoire classée X. Vous y expliquez que, de fait, les sportives et sportifs de haut niveau ont des capacités biologique hors normes et qu'elles sont parfois innées, c'est important de le rappeler, et indépendantes de leur sexe. Or, vous expliquez, et j'en ai parlé dans l'intro de cette émission, qu'on remet pas en cause les performances du nageur Michael Phelps en raison de ses pieds immenses et de sa faible production d'acide lactique, qui pourtant, je vous cite, lui confère une suprématie indéniable sur ses concurrents. Comment vous expliquez que ces mêmes avantages biologiques soient vus différemment si ça concerne une femme ?
C'est une bonne question et je vais essayer d'être synthétique parce qu'on l'a pas encore fait et je pense qu'il faut se plonger dans l'histoire du sport pour le comprendre. Comment c'est construit le sport de haut niveau via la catégorisation. Et on a fait des catégorisations de poids, ça a pu être dit dans les arts martiaux et dans la boxe, les légers, les lourds, des catégories d'âge, un jeune ne va pas concourir contre une personne plus âgée, des catégories de handicap, en partant du principe, et ça a posé des problèmes d'ailleurs avec Oscar Pistorius,
et oui,
qu'un athlète paralympique doit présenter des records ou des performances inférieures à un athlète valide. Et c'est exactement la même chose chez les femmes. On est parti en catégorisant du principe que les femmes devaient rester, avoir une supposée, je ne sais pas comment le dire, mais infériorité biologique, physiologique, supposée entre guillemets naturelle. Et à partir de ce moment-là, tout a été fait pour réifier leur infériorité biologique et donc on ne supporte pas de voir l'exceptionnalité, le hors norme chez une femme. Ça passe aussi, j'ai d'autres exemples, ça passe aussi par exemple par les règlements, le poids, les poids, pourquoi on a fait lancer aux femmes dès le départ 4 kilos au lieu de 7 kilos pour les hommes. Ça va avoir un impact sur les musculatures, on va pas s'entraîner de la même façon. Pareil pour les grands chelems en tennis, on leur demande 2-7 et pas 3-7. Toutes ces pratiques sociales, ces règlements, ces interdictions, parce qu'on pourrait prendre l'interdiction du foot, ont un impact sur les corps, ont un impact sur l'exceptionnalité et leurs normes qu'on n'accepte pas dans la catégorie d'âme.
Pour vous, s'il n'y avait pas eu toutes ces normes sociales, finalement, cette chape de plomb, l'évolution peut-être aurait fait que les femmes et les hommes pourraient concourir ensemble, pourrait y avoir des équipes de foot mixtes, par exemple.
C'est une très bonne question, j'ai du mal à répondre à cette question parce que je révise pas l'histoire et je ne peux pas le savoir, mais je suis fermement convaincue, pour être historienne et avoir travaillé sur la très lente et difficile accession des femmes aux activités physiques, physique et sportive, que tout a été fait pour que les femmes restent à leur place et ne soient pas dans l'exceptionnalité et leurs normes.
Avec des temps toujours inférieurs aux
hommes. On en parlait un peu hors antenne, mais est-ce que ça a changé quelque chose aussi, ces tests de féminité, dans la manière dont les sportives se jaugent entre eux et entre elles ?
Ah oui, oui, oui. Y a une injonction, mais depuis qu'elles ont mis leur corps en mouvement, moi j'ai lu que le danger du sport était d'en faire des viragos, des femmes stériles, des lesbiennes, qu'elles aient, j'ai même lu, surtout pas de sauts, parce que j'ai fait ma thèse quand même, je vais le rappeler, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent, en histoire, et j'ai étudié tous les discours médicaux dans la mise en mouvement des corps, enfin dans l'accession des femmes aux activités physiques et sportives de 1880 à 1922. Et les femmes, pour faire du sport, devaient répondre aux injonctions et aux critères normatifs de la féminité. Et toutes celles qui en sortaient se voyaient humiliées, stigmatisées, rejetées par les sportives elles-mêmes. Donc oui, oui, je réponds à votre question, oui.
En tennis, on a eu quelques exemples médiatisés. En 73, Bobby Riggs, tennisman retraité de 55 ans, défie Billie Jean King. Il se fait battre en 3-7, mais bon, il a 55 ans, elle est plus jeune. Pour vous, est-ce que c'est un bon exemple pour la mixité du sport?
Absolument pas. Absolument pas, parce que je trouve que c'est une grande hypocrisie de vouloir comparer le sport des femmes et le sport des hommes. On a un siècle de retard dans la mise en mouvement de nos corps. On a pris l'exemple du 800 mètres, on a pris l'exemple du tennis, le biathlon, les distances ne sont pas les mêmes, etc. Comment voulez-vous comparer des joueuses de tennis à qui l'on fait faire que 2-7, qui doivent remporter 2-7 au lieu de 3, on s'entraîne pas de la même façon en fait, on met pas en mouvement nos corps de la même façon. Et là, je prends l'exemple du sport, mais dans la société de manière générale. Il faudrait voir la façon dont on éduque les filles, dont, leur socialisation, l'accès à l'alimentation, les injonctions à la maigreur, à la minceur, on peut pas. Enfin, ça rejoint votre question. Les femmes qui sont stigmatisées, souvent, on a tendance à oublier dans le monde du sport que le sport bouleverse et transforme les morphologies. Si vous voulez lancer le poids ou lancer le marteau, moi je m'y suis essayée, donc je peux en parler facilement parce que c'est la seule médaille que j'ai eue. J'ai fini 3e sur 3 aux championnats départementaux. C'est ma grande fierté parce que aucune femme n'avait le droit de faire du lancer de marteau.
Bravo.
Parce qu'on, ouais, merci. Parce qu'on estimait que c'était trop masculin. On a un siècle de retard. Elles ont eu le droit au saut à ski en 2014. Elles ont eu le droit à la boxe en 2012. En fait, on a un siècle de retard. Donc pourquoi aller comparer des corps qui ont été empêchés.
Et pour finir juste très rapidement une petite question légèrement en marge de notre sujet, comment vous positionnez sur le cas la place des femmes et des hommes trans dans ces compétitions sportives?
Alors, effectivement, je ne travaille pas à proprement parler là-dessus. Ce que je pourrais dire de manière très rapide, c'est qu'il n'y a aucun consensus international à ce jour sur le fameux avantage physique qu'auraient les femmes trans. Donc moi, je prends ce sujet avec beaucoup de pincettes. Il y a un rapport génial que j'invite tous les auditeurs et les auditrices à aller lire, d'un état des lieux, si vous voulez, de toute la littérature scientifique à ce sujet-là, sur avantage physique ou pas. C'est émis par... Le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, et c'est un rapport qui est intitulé « Athlètes transgenres féminines et sport d'éthique ». Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que il y a plein de femmes trans nulles.
Aussi, oui.
Comme des femmes cisgenres comme moi, en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai le temps de développer, mais...
Non, vous n'avez plus le temps de développer, mais vous n'étiez pas si nul que ça, j'en suis sûr. On trouvera des vidéos sur YouTube. Ouais. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Non, dans quelques instants, c'est Rosa Burstein qui va nous rejoindre, mais le moment est venu chaque jour. Vers 5h moins le quart, la France s'arrête. Une France coupée en deux. D'un côté, ceux qui écoutent Manon Mariani et la radio, de l'autre, ceux qui regardent Manon Mariani sur YouTube, afin d'analyser sa chevelure, pour voir si la fameuse Ray de Legendary Ray est bien en place. Manon, chaque après-midi, elle est magnifique.
C'est l'autoroute.
Chaque après-midi, dans cette veille sanitaire, qui est donc une référence journalistique et capillaire, vous analysez les tendances qui montent sur les réseaux. Aujourd'hui, zoom sur une nouvelle fonctionnalité qui pourrait être lancée sur Instagram.
Elle s'appelle PIC, P-E-E-K, en français ça signifie coup d'œil, et selon le média spécialisé TechCrunch, un prototype de PIC est actuellement en test chez les ingénieurs d'Instagram, des captures d'écran même fuitées sur X. Alors je vous explique son fonctionnement. PIC se présente comme une version encore plus éphémère des stories, car là on ne pourra poster qu'une seule photo que nos followers ne pourront regarder qu'une seule fois, et la photo devra être prise sur le moment, on ne pourra pas sélectionner une photo de notre galerie. Le but est de jouer avec l'instant pour proposer du contenu plus authentique. Cette description vous dit-elle quelque chose?
Même à moi, elle me dit un truc.
Normal, elle ressemble à celle de l'application française Biril. Je vous en avais déjà parlé, mais je vous rappelle quand même son concept. Chaque jour, on reçoit une notification qui nous invite à prendre une photo de ce que l'on est en train de faire. On a 2 minutes pour la prendre, pas le droit au filtre et pas le temps de faire une mise en scène. Bref, Biril a été assez novatrice dans l'univers des réseaux puisqu'elle se voulait être l'anti-Instagram, devenu le paradis des photos retouchées. Pour contrer cette offensive, l'appli de l'État pourrait donc changer son fusil d'épaule et intégrer sa fonctionnalité PIC, même si je n'y crois pas beaucoup.
Mais pourquoi, Manon ?
Eh bien parce que ce n'est pas la première fois qu'Instagram tease une nouvelle fonctionnalité sans date de sortie précise et qui, au final, ne voit jamais le jour. Avant PIC, il y a par exemple eu les Candid Stories qui ont été annoncées fin 2022. Pour le coup, c'était un copier-coller de BeReal, là où PIC se différencie un peu plus car les utilisateurs ne reçoivent pas cette fois-ci de notification. Ils peuvent choisir eux-mêmes quand ils postent leurs photos. Eh bien, Candid Stories n'a jamais vu le jour, alors même que Meta avait officiellement annoncé son lancement. Pareil pour la fonctionnalité Friends Map dont on a parlé en début d'année. Cette fois-ci, Insta a voulu copier Snapchat en proposant une carte permettant de localiser ses amis. C'est un concept très utilisé sur Snap depuis des années, notamment par les jeunes utilisateurs. Insta voulait donc faire la même chose, autoriser le partage de sa localisation en temps réel à ses amis.
Et ça non plus, c'est jamais sorti ?
Eh bien non, et pourtant, comme les Candid Stories, le processus avait déjà été bien avancé du côté de Meta. Il y avait des visuels déjà tout prêts, un nom, mais rien. Et Insta n'a jamais donné d'explication pour justifier ce faux départ sur ce sujet. C'est pour ça que je ne suis pas certaine que PIC arrive bien un jour sur la plateforme. En fait, c'est assez étonnant car ça donne l'impression que Meta est à la recherche de nouveautés pour Instagram, mais que l'entreprise ne sait pas vraiment sur quoi miser. Du coup, comme à son habitude, elle regarde ce qui marche chez ses concurrents pour essayer de trouver la pépite qui va faire la différence. Alors, en général, pomper les concepts des autres, c'est payant pour l'application. Elle l'a fait avec Snapchat en copiant le principe des stories et avec TikTok en copiant le principe des Reels.
Et là, elle mise donc sur BeReal.
Exactement. Et ce n'est pas très étonnant d'ailleurs, car c'est une application principalement utilisée par les jeunes aujourd'hui, des jeunes qui aiment ce retour au naturel. Or, ce public est très important pour Instagram. Elle sait qu'elle doit se renouveler pour être en phase avec ses attentes et surtout ne pas se retrouver avec un public vieillissant, comme c'est arrivé par exemple avec Facebook. Alors, Instagram a encore une marge de manœuvre assez large, puisqu'en France, l'application reste le deuxième réseau social le plus utilisé par la Gen Z, donc chez les 15-24 ans. Snapchat est en première place et le but d'Insta va être de ne pas se faire dépasser par TikTok qui est quand même juste derrière. Et vu l'ascension de TikTok ces dernières années, ça pourrait arriver très rapidement. Insta se doit donc de rester à la pointe, à voir si ça sera avec PIC.
Merci Manon, et sachez qu'en économie, l'effet déceptif qui consiste à annoncer à grand renfort de marketing un produit qui n'arrive finalement jamais sur le marché a un nom depuis 2024, l'effet Lou Cigalou.
Bah oui.
Cette tasse provençale qui fait le bruit des cigales quand on boit, que tout le monde attendait et qui est toujours dans les cartons de la Lui Incorporated.
Les cartons vont s'ouvrir.
Et on va pas être déçus. Voilà. Restez avec nous, Zoom Zoom Zen continue avec Rosa Burstein juste après Junior, le silence sur Inter.
À quoi tu penses ? Tu penses à moi qui pense à toi ? Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois quand le jeu des silences qui ne les emplit pas, à force de prudence, ça reste que de jeter un froid. Est-ce que tu penses sans langue de bois quand le crépuscule est immense, que le temps finit. Ça pense que ce sera le soir. Je me dis tout en romance. Quand je suis ici et toi là-bas, il y a des chances que tu penses, tu penses à moi, tu penses à toi. Quoi tu penses, la distance on s'habituera. Et l'absence, tu crois, elle est chacun pour soi. La prochaine séquence, le prochain faux pas. À quoi tu penses ? À quoi tu penses ? À quoi tu penses ? Si je m'avance, renoncer tout n'importe quoi. Balancer l'indifférence, la crise de foi. Est-ce que tu fais un jeu ? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses pour revoir l'envers à l'endroit ? Quand la nuit est si blanche qu'elle ne dégrise pas. J'ai 10 ans.
Elva de surprise en surprise avec les thèmes de cette émission iconoclaste et Zoom Zoom Zen. Bonjour Rosa Burstein.
Bonjour Mathieu.
Alors quand on vous a dit que le sujet c'était les tests de féminité, vous vous attendiez à quoi ?
Alors moi, les tests de féminité, ça m'a évoqué les quiz débiles des magazines à l'adolescence pour découvrir ta véritable personnalité de dragueuse de l'été. En vacances, tu embarques la pile de bouquins chiants ou l'auto-bronzant ? Bah, des bouquins bien quoi. Deuxième question, pour aborder un homme, tu optes pour de l'humour façon espiègle ? Ouais. Un push-up et le maxi décolleté ? Non. Ou le dernier ragot sur la pétasse du quartier ? Ah bah non, pas du tout. Non. Conclusion, tu es une dragueuse de terrasse, plutôt pudique, tu restes assise en attendant d'être abordée et peaufine ton bronzage. Mais non, mais j'avais pas voté pour l'auto-bronzant, mais non. Voilà, ces tests de féminité sont tout aussi merdiques que ceux concernant les sportives, où l'on vérifie tes chromosomes et si tu réponds mal au quiz, que tu finis pas le pot de glace en chialant devant les films de Hugh Grant, c'est que t'es une fausse femme. Et bien sûr, pas de tests de masculinité pour les sportifs. On demande pas aux basketteurs d'être tous aussi grands, aux nageurs d'avoir tous la même taille de pied, aux footballeurs la même taille de enfin voilà, mais de maison. Non, certains ont une très 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 grosse maison. Moi, dans mon couple, j'ai la supériorité physique. Dommage qu'il n'y ait pas une épreuve mixte de résistance à la douleur. Là, c'est sûr, les femmes gagneraient. Mon copain voyage avec 3 trousses à pharmacie. Là, en mai, avec son allergie au pollen, non seulement il tousse, mais il a aussi 39 de fièvre toutes les nuits. Notre lit est trempé et c'est pas de mon fait. Lui veut quand même qu'on s'endorme en cuillère. Et évidemment, c'est à moi de l'enlacer. Il est là, goûteux, tout plein de sueur. Prends-moi dans tes bras, Rosa. Prends-moi par derrière. J'ai aussi la supériorité financière. C'est moi qui ramène la moula. J'en ai rien à branler. Qu'il m'invite au resto, je respecte qu'il gagne 5 centimes de l'heure en faisant du théâtre avec des enfants à Saint-Denis. Ça m'excite même. Mais oui, ça me rassure, ça me convainc qu'on est bien de gauche. Un vrai métier de gauche, ça ne gagne pas d'argent, c'est comme ça. Et quoi qu'on en dise en ce moment, vu combien on est payé à la chronique, France Inter reste vraiment une radio de gauche. Vous inquiétez pas, hein, pour mon copain, il accepte que je fasse des vannes sur lui. De toute façon, il n'a pas vraiment le choix. S'il rigole pas à mes blagues, je le vire de l'appart que je possède. Je lui fais le loyer à un prix imbattable, c'est ça l'amour. Donc je sais pas lequel du couple a le plus de testostérone, aucun de nous deux n'est musclé, là-dessus égalité. Et les JO, ça nous fait flipper. Pardon, mais exclure les femmes intersexes ou trans parce qu'elles nuisent à la pureté de la race femelle, c'est un truc de nazi. Voilà. Le fondateur de l'olympisme moderne, Pierre de Coubertin, était copain d'Hitler. Il y a 100 ans, quand Paris accueillait déjà les JO d'été, moins de 5% des athlètes étaient des femmes, parce que Pierrot avait dit que leur rôle était de couronner les vainqueurs. C'est marrant, elle est moins connue celle-là que l'important c'est de participer. Pourtant lui, à l'épreuve de misogynie synchronisée, il avait bien participé. Enfin, je veux pas casser l'ambiance. Allez Paris 2024.
Oh oui, on est tous très excités. Merci Rosa Burstein, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Anaïs Beauhuon de nous avoir éclairé sur la problématique de ces tests de féminité dans le sport. Je rappelle votre livre pour aller plus loin, Catégorie d'âme, c'est disponible aux éditions X. Justement, les JO arrivent, comment ça va se passer ? Il va y avoir des tests en loose day ?
Alors ça dépend des disciplines parce que le CIO s'est complètement défaussé et a dit à chaque fédération internationale de décider parce que les avantages ne sont pas les mêmes en fonction des sports. Pour la Fédération internationale d'athlétisme, parce qu'on en a beaucoup parlé, Sébastien Co, pour ne pas le nommer, donc le président de World Athletics, a décidé d'interdire les femmes trans et pour les femmes totalement les interdire. Voilà. Il a dit que de toute façon il y en avait pas, donc voilà.
Ah oui, ça résout le problème.
Et que en plus, comme il n'y avait pas de consensus scientifique international, il prenait donner le parti de leur interdire. Et pour les personnes désignées comme intersexes, 2,5 nanomoles de par litre de sang de testostérone. Traitement, et j'ai pas, je voudrais vraiment finir là-dessus, qui crée d'immenses effets secondaires sur ces femmes.
Très bien. Eh bien, c'est bien. On a été complet. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à tous. On n'a pas le temps de saluer toute l'équipe, mais ma foi, vous commencez à les connaître. Maintenant, au bout de 350 émissions, c'est toujours les mêmes qui sont là.
Allez, on vient demain.
Ouais, bon, était la technique. Ghislain Fontana à la réalisation. Demain, on zoomera sur les copains de Manon. Les copains de Manon, les incels. Demain, ça va être passionnant.